6h30, 9h, les matins de France Culture, Quentin l'a fait.
L'heure du biais d'Esther Duflo. Bonjour Esther, et aujourd'hui les réunions de printemps du FMI et de la Banque mondiale commencent aujourd'hui. Est-ce que vous y participez? Mais avant cela, vous souhaitiez dire un mot de notre regretté Mydia Portis-Guérin.
Bonjour Quentin, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je voudrais commencer par partager une pensée pour Mydia Portis-Guérin de la réalisation des matins de France Culture. Mydia nous a quittés brusquement il y a juste une semaine. Elle m'avait accompagnée depuis mes débuts en septembre et m'avait expliqué patiemment et avec gentillesse toute la différence entre un bon et un mauvais son. Toutes mes pensées vont à sa famille et bien sûr à vous tous, ses collègues au matin. À part cela, oui, les réunions du printemps de FMI et de la Banque mondiale commencent aujourd'hui et je vais y aller à l'invitation du Brésil pour participer à la réunion des ministres des Finances du G20. Je vous en dirai davantage la semaine prochaine. Mais une chose que je ne vais pas faire, c'est opiner sur les perspectives de l'économie mondiale.
Et c'est pourtant ce que tout le monde est là pour faire pendant ces réunions, n'est-ce pas Esther?
Effectivement, Quentin, ces réunions sont l'occasion pour les ministres, les ONG, les bureaucrates de toutes les organisations de se rencontrer et de discuter de l'état de la planète. La situation en Israël, à Gaza, la guerre en Ukraine, l'Argentine vont naturellement prendre une place importante dans ces débats. Mais le grand événement de ces réunions, c'est le rapport du FMI. Le FMI va nous livrer son oracle sur les perspectives de croissance de l'économie mondiale et de chaque région, et ses prédictions seront abondamment discutées. Mais à quel point faut-il lui faire confiance? Probablement pas trop. Le magazine The Economist s'était amusé il y a quelques années à comparer les perspectives de croissance du FMI, calculées par son immense département de prospective, à des règles simples, comme par exemple un chiffre constant, 3% quoi qu'il arrive, un chiffre choisi au hasard, par exemple entre 3 et 10%, ou bien le même taux que l'an dernier. Ces soi-disant prédictions avaient une performance similaire à celle du FMI. Et le département de recherche du FMI avait lui-même montré que son département de prédiction ratait systématiquement les épisodes de dépression.
Alors pourquoi le FMI est-il si mauvais, Esther, dans ses prédictions?
Oh, il n'y a pas que le FMI. L'article de son département de recherche montrait d'ailleurs que les professionnels de la prédiction avaient une performance tout aussi mauvaise que lui. L'économiste et diplomate John Kenneth Galbraith disait ainsi que le forecasting économique existait pour donner une bonne réputation aux astrologues. Et de fait, les économistes n'ont pas eu une bonne année. D'abord, ils n'ont pas vu l'inflation venir, puis ils n'ont pas vu qu'elle retomberait relativement facilement et rapidement, puis ils n'ont pas prévu qu'aux États-Unis, en tout cas, sa chute s'arrêterait avant qu'elle ne soit complètement stabilisée. Tout cela est un peu embarrassant. Ce n'est pas forcément que les modèles sont faux. Comme le disait mon collègue Olivier Blanchard au New York Times, le principe de base qui veut que quand l'économie est sous pression, l'inflation augmente, reste correct. Le problème, c'est de passer de la théorie à une prédiction utile en pratique, pour Bruno Le Maire ou pour tout un chacun. L'économie, ce n'est pas la physique. Nous n'avons aucun espoir de tout capturer dans nos modèles macro. Les résultats dépendent de tout un tas de variables qui ne sont pas facilement observables. De la réaction israélienne à un tir de missile de l'Iran, à l'optimisme des ménages américains, jusqu'aux manifestations en Argentine. Pour citer Niels Bohr, c'est difficile de prédire, surtout l'avenir.
Alors vous, les économistes, au fond, Esther, vous êtes un peu inutiles?
De fait, Quentin, le fait que les économistes soient si mauvais dans leurs prédictions explique sans doute la faible confiance qui leur est accordée. Dans un sondage au Royaume-Uni, alors que 71% des gens faisaient confiance aux historiens et aux scientifiques, et 50% aux météorologues, seuls 25% faisaient confiance aux économistes. Mais en réalité, la plupart des économistes ne sont pas des experts en cravaté qui se prononcent sur les perspectives de l'économie. Ce sont plutôt des gens comme moi qui n'ont rien à dire sur les perspectives de croissance, mais essaient de comprendre des phénomènes aussi divers que la meilleure façon de persuader les parents de vacciner leurs enfants, ou encore comment protéger les plus pauvres contre le réchauffement climatique. Ce sont aussi ces gens-là qui seront au meeting de printemps et que je me réjouis d'aller rencontrer.
Merci beaucoup Esther Duflo et merci à vous d'être à l'écoute de France Culture. Il est 8h.